La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. S'il n'y avait pas eu le sida, Hervé Guibert aurait aujourd'hui 63 ans, autrement dit de longues années encore devant lui pour écrire. Mais c'est à 36 ans seulement qu'il nous a quittés, dans un monde déjà bien loin de celui-ci. Et on se demande aujourd'hui ce qu'aurait pu devenir cet éternel jeune homme de la littérature, au talent si précoce. Avant d'être un jeune homme, il avait été un enfant profondément solitaire, qui était fou de théâtre et d'esthétique, qui trouvait ses parents trop moyens et qui aimait surtout ses camarades de classe lorsqu'ils étaient beaux. Il a imprimé sa marque à la fois dans l'écriture de soi et dans l'écriture de la maladie, comme nous l'avons vu lundi au cours d'une émission biographique, c'était avec Frédéric Andreau. Mardi, avec cette fois Bruno Blankmann, nous nous sommes interrogés sur l'autofiction chez Hervé Guibert. Et puis mercredi, nous avons évoqué son travail de photographe ainsi que la postmodernité à l'œuvre dans son travail. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer Guibert par le prisme de la subjectivité et du témoignage, nous sommes en compagnie de plusieurs invités. Brigitte Ollier, qui a publié un petit livre sobrement intitulé Hervé, dans lequel elle a réuni plusieurs évocations de l'écrivain par des personnes qui l'ont connu. Nous l'entendrons en seconde partie, ce sera juste après la chronique d'Éric Marty qui parlera de la relation entre Barthes et Hervé Guibert. Et puis en première partie, nous entendrons les écrivains Mathieu Simonet et Bénédicte Haim qui ont tous deux participé au numéro 51 de la revue littéraire des éditions Léo Cher, laquelle était consacrée à Hervé Guibert pour le 20e anniversaire de sa mort. C'était sous la direction d'Arnaud Genon. Bienvenue à tous les quatre. Bonjour à tous les quatre. Voici la compagnie des auteurs.
J'avais connu Vincent en 1982, alors qu'il était un enfant. Il était resté dans mes rêveries. Je devais me résoudre à ce qu'il soit devenu un homme. Je continuais à l'aimer pour ce qu'il n'était plus. Depuis 6 ans, il envahissait mon journal. Quelques mois après sa mort, je décidai de le retrouver dans ses notes, à l'envers. Qu'est-ce que c'était ? Une passion ? Un amour ? Une obsession érotique ? Ou une de mes inventions ?
Une lecture par Laurence Millet, Mathieu Simonet, nous allons commencer avec vous si vous le voulez bien. Vous avez reconnu, bien entendu, cet extrait du livre d'Hervé Guibert, Fou de Vincent. On l'a choisi évidemment parce que vous avez intitulé vous-même Fou de Vincent, votre texte hommage à Hervé Guibert donné à la revue littéraire. D'abord, qu'est-ce que vous retenez de l'évocation de ce passage qui se trouve tout au début de ce livre ?
En fait, il se trouve que le livre pour Fou de Vincent, pour moi, est comme un livre gris-gris qui me... c'est un petit peu comme si c'était des formules magiques. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, je dis que je ne retiens rien de ce livre de Fou de Vincent,
mais qui
ne
me transmet rien.
Oui, c'est-à-dire, je retiens enfin, à chaque fois, j'ai lu 3-4 fois ce livre et à chaque fois, ce livre m'a bouleversé, a changé mon écriture. Mais c'est comme si j'entrais dans un état second. Ce livre a un statut un peu d'état second pour moi. Et je me fais la réflexion que par rapport à l'extrait qu'on vient d'écouter, je me retrouve face à un blanc. Pour dire ce que je dois ressentir.
Ça vous fait ça aussi avec d'autres livres d'Hervé Guibert ou c'est
Non, c'est vraiment celui-ci, c'est vraiment Fou de Vincent qui m'a fait cet effet. Et sachant que Fou de Vincent c'est le premier livre que j'ai découvert d'Hervé Guibert puisque c'est un de mes amants qui à l'époque n'était pas mon amant qui m'a offert ce livre. Et ce livre, effectivement, a été, j'avais 18 ans, a changé mon rapport à l'écriture.
Mmh. Alors, pourquoi ça résonnait en vous? On peut peut-être raconter, du coup, un petit peu davantage ce qu'est ce livre, Fou de Vincent.
Alors, Fou de Vincent, ça raconte une histoire d'amour entre Hervé Guibert et Vincent. Et c'est un livre qui est à rebours, qui commence par déjà la mort de Vincent, sa défenestration.
Et sous l'effet de drogue.
Voilà. Et c'est un journal à rebours qui raconte d'abord la fin de l'histoire. Et on va remonter au fur et à mesure au début de l'histoire. Et c'est une écriture qui est à la fois très crue et très très magnifique. Et l'écriture est à la fois ciselée et brute. Et c'était, enfin, moi à 18 ans, c'est la première fois que je lisais une écriture de ce type. Et j'avais l'impression de que c'était une écriture cinématographique et que je voyais Vincent et que je voyais les flashs. Parce que j'ai des souvenirs de flashs par rapport à ce film et que j'avais des souvenirs de flashs par rapport à ce Vincent qui tout d'un coup devenait totalement concret, réel, incarné et en même temps. Ce que je pensais à l'époque, je me disais que Vincent était mort lorsque je le lisais.
Donc ça se passe en 1990, votre découverte de ce livre, c'est un an après sa parution. Et en effet, c'est très ancré pour vous, c'est très lié à cette période de votre vie. On a l'impression d'ailleurs que souvent les livres d'Hervé Guibert sont comme ça, très appropriés par les lecteurs qui le lisent à un certain moment de leur vie. Et on retire justement quelque chose précisément parce qu'ils le lisent à un moment qui est pour eux spécial.
Je pense effectivement qu'il y avait plusieurs questions qui se posaient pour moi à l'époque. C'était de savoir, est-ce qu'on peut tout dire dans l'écriture? Est-ce que l'écriture, notamment sexuelle, doit être tabou? Est-ce qu'elle est sale? Et c'est une question que je me posais à l'âge de 18 ans. Et en lisant Hervé Guibert, j'ai découvert que, bien évidemment, l'écriture sexuelle peut être magnifique. Tout dépend comment elle est abordée. Se pose aussi la question de savoir s'il fallait parler de soi ou ne pas parler de soi. Donc, en fait, Hervé Guibert, sur plein de questions un peu fondamentales qui me paraissent aujourd'hui simples, a répondu à toutes ces questions. Et puis j'ai tout de suite ressenti, enfin pour moi c'était un livre lié aussi au désir puisque ça m'a été offert par un écrivain qui est devenu mon amant.
Et c'est plutôt l'inverse, parce qu'à l'époque il n'était pas encore écrivain, devenir.
Mais si, pour moi il était écrivain, parce que pour moi être écrivain, ça n'est pas être publié, c'est un rapport au monde. Et il s'appelle Olivier Bouyère n'avait pas publié à l'époque
chez POL,
mais il avait ce rapport à un rapport un peu sacré à l'écriture. Et je trouve que chez Hervé Guibert il y a ce rapport sacré à l'écriture. Et ce qui pour moi était un peu fondamental. Donc concrètement, le premier manuscrit que j'ai terminé, qui n'a pas été publié, qui s'appelle Les corps fermés, que j'ai écrit en 92, un ou deux ans après avoir lu Fou de Vincent, a été très très imprégné par cette écriture de d'Hervé Guibert et enfin voilà.
C'est votre professeur d'écriture.
C'est un professeur d'écriture et de temps en temps je dis, en fait un jour on m'avait demandé comment je me définissais par rapport à des auteurs ou par rapport à des artistes et j'avais indiqué que j'avais le sentiment d'être l'enfant illégitime d'Hervé Guibert et de Sophie Calle. Sophie Calle et Hervé Guibert sont vraiment les deux personnalités que je n'ai pas rencontrées, mais qui m'ont énormément influencé.
Sophie Calle, qui était une amie d'Hervé Guibert, et ça, vous l'avez découvert aussi, vous le racontez dans ce petit article, vous l'avez découvert à la suite d'une déception amoureuse en allant vous soigner, d'une certaine façon, dans une exposition de Sophie Calle. Enfin,
exactement, je sortais avec un écrivain pour enfants qui m'avait quitté, et j'en étais très très malheureux, et je suis allé voir à Beaubourg cette exposition sur Sophie Calle, et j'ai découvert l'amitié très forte qui existait entre Sophie Calle et Hervé Guibert à ce moment-là. Et l'autre élément qui pour moi a été un peu fondamental par rapport à Fou de Vincent, c'est que j'ai longtemps vécu avec l'idée, avec le fantasme de Vincent que je n'avais jamais vu, et avec l'idée que Vincent était mort, et c'était un peu l'amant absolu. Et lorsqu'on m'a proposé d'écrire cet article pour la revue Léo Cher, au même moment, il y avait un livre audio de Vincent Josse que je lisais, qui s'appelle L'écrivain photographe. Et dans ce livre audio, il y a une photo de Vincent. Et donc, des années après, quasiment 20 ans après, je découvrais la photo de Vincent et c'était pour moi un énorme choc. Et
juste après. Il était comme vous l'imaginiez?
Pas du tout. Il était plus garçon, moins homme. Il était peut-être plus sauvage, plus doux que je ne l'imaginais. Mais en tout cas, ça a été un flash. Et ça m'a donné envie d'aller à la recherche de l'histoire de ce Vincent. Et j'ai retrouvé mon ancien amant Olivier Bouyère pour lui demander comment lui avait connu Fou de Vincent. Et c'est là où mon ancien amant Olivier m'a appris que Vincent en fait n'était pas mort et que c'était une fiction. Et tout d'un coup, moi qui étais persuadé
qu'il ne s'est pas défenestré, dans cette scène extraordinaire, parce que Foot Vincent commence par donc la défenestration de Vincent qui saute du troisième étage avec une serviette de bain et pense en faire un parachute. Ouais. Il évidemment s'écrase au sol et puis se relève, et quand les pompiers arrivent, Vincent remonte dans sa chambre et meurt le lendemain des suites de ses blessures, puisqu'il a dit aux pompiers qu'il pouvait rentrer chez eux. Et donc ça, c'est une scène qui n'a jamais existé, mais qui est présentée comme étant vraie.
Qui est présentée comme étant vraie. Moi, j'étais persuadé qu'Hervé Guibert était toujours, que tout ce que racontait Hervé Guibert était très, était toujours réel. Et je fais une toute petite parenthèse, je me rends compte que je suis toujours touché par les suicides romanesques. Et ça me fait penser au suicide d'Isabelle Abloh, qui est également une femme dont le suicide a été très romanesque. Et donc, quand j'ai découvert que ce suicide était faux, qu'il ne s'était pas suicidé, je me suis dit, dans ce cas-là, je vais essayer de retrouver Vincent. Et donc, j'ai mené une enquête pour retrouver Vincent. Et j'ai découvert, c'était en 2011, au moment où je cherchais Vincent, qu'il venait de se suicider quelques semaines plus tôt, lors, paraît-il, le jour de l'inauguration de l'exposition d'Hervé Guibert à la Maison Européenne de Photographie. Where are you? And I'm so sorry. I cannot sleep, I cannot dream tonight. I need somebody and always. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted the webs from all the spiders, catching things and eating their insides, like indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight?
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'Hervé Guibert avec vous, Mathieu Simonet. Pour vous, il y a deux Hervé Guibert. Il y a celui de Foot Vincent, dont vous nous parlez depuis le début de l'émission. Et puis, il y a celui de la maladie. Mais à l'époque où vous l'avez découvert, vous ne saviez pas qu'il avait le sida. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière dont on perçoit cet écrivain, de finalement connaître la manière dont ensuite il a été atteint par la maladie?
Alors, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que finalement, j'associe toujours le Hervé Guibert que j'admire essentiellement à Foot Vincent, et je l'associe plus à cette période-là qu'à la deuxième période qui correspond à L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, qui est un livre aussi très très beau. J'ai retrouvé bien sûr toute la beauté de l'écriture de Guibert, mais j'étais plus finalement, je n'arrive pas à associer Guibert au sida. J'associe Guibert à autre chose, parce que je l'ai rencontré par l'écriture autrement. Et je crois aussi que j'aimais l'idée que Hervé Guibert était confidentiel quand je l'ai rencontré, enfin quand j'ai découvert Foot Vincent. J'avais l'impression que c'était une espèce de petit trésor. Mm-hmm. Lorsque j'ai découvert qu'il était très célèbre.
Ça vous a déplu?
Je sais pas si ça m'a déplu, mais en tout cas, ça m'a moins attiré. Enfin, voilà, j'ai conscience que je reviens toujours au livre Foot Vincent et pas aux autres livres de Guibert, même si son écriture est la même partout. Et l'autre choc que j'ai eu, c'est des années plus tard, je suis allé à l'IMEC, qui est un endroit où il y a beaucoup d'archives d'écrivains, dont des archives de Guibert. Et j'étais à l'IMEC pour écrire un livre sur mon père. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion rêvée de peut-être lire un vrai manuscrit d'Hervé Guibert. Mmh. Et donc, j'ai demandé le manuscrit de nouvelles qu'il a écrites, qui s'appelle Piqûre d'amour et autres récits, je crois que c'est ça le titre. Et j'ai passé une après-midi à retaper son manuscrit. Et j'avais l'impression d'être dans les pas d'Hervé Guibert. Et je comparais toutes les différences entre le texte publié et le manuscrit. Et en fait, ça, c'était la deuxième expérience forte que j'ai vécue avec Hervé Guibert. J'ai l'impression que ce qui m'intéresse avec Hervé Guibert, c'est de vivre des expériences intimes, un peu presque chamaniques.
Mais alors, ce que vous dites, finalement, du confidentiel que vous aimiez beaucoup autour d'Hervé Guibert et qui participe de sa séduction et qui peut-être a disparu un petit peu pour un certain nombre de lecteurs à partir du moment où il est devenu un écrivain très célèbre, est-ce que c'est pas justement constitutif du rapport que les lecteurs entretiennent avec Hervé Guibert? Chacun a un petit peu le sien et souhaite le garder pour lui.
De temps en temps, je dis que ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est la notion de littérature augmentée, c'est tout ce que le lecteur apporte au livre qui n'a pas été prévu par l'auteur. Et je crois que j'étais dans un rapport de littérature augmentée avec Hervé Guibert. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était moins peut-être Hervé Guibert que tout ce que j'investissais en tant que lecteur singulier avec Hervé Guibert. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ce qui m'a intéressé en 2011, lorsqu'on m'a demandé d'écrire cet article, ça a été d'offrir Fou de Vincent à des dizaines de personnes pour leur dire ce livre est comme un médicament, dites-moi les effets secondaires que ce livre vous procure.
Un médicament ou une drogue?
Alors, moi je le vivais comme un médicament, mais ça aurait pu être comme une drogue. Et donc il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire à quel point ils avaient été choqués, bouleversés. Et j'aime l'idée que la littérature a un impact très très concret, très singulier sur chaque lecteur. Mmh. Et c'est un peu ce que j'ai découvert avec Guibert.
Est-ce que c'est l'écrivain d'une communauté, de la communauté homosexuelle en particulier, pour vous, Mathieu Simonet, Hervé Guibert ?
La réponse est peut-être oui. Pendant très longtemps, j'avais un petit peu du mal avec l'idée qu'il pouvait y avoir une littérature homosexuelle, parce que je pense que personne n'a envie de se retrouver enfermé dans un carré.
Vous-même, vous ne vous enfermez pas dans ce carré-là.
Non, mais je pense que on a tous des origines dans nos écritures, et l'homosexualité est une des origines de mon écriture et sans doute de l'écriture d'Hervé Guibert. Et finalement, je crois qu'il faut se dire qu'une littérature homosexuelle, c'est pas une littérature qui renferme, c'est une littérature... Je pense qu'à partir du moment où on assume sa singularité, on peut plus facilement parler aux singularités des autres. C'est comme sur la question de la honte, l'important, c'est pas... Moi, j'ai eu honte d'être homosexuel enfant, et je trouve que ce qui est intéressant quand on assume ses hontes, c'est de se rendre compte qu'on a tous honte pour des raisons différentes, et qu'en assumant nos singularités et nos hontes, on revient sur une universalité. Donc finalement, Si Hervé Guibert n'avait pas été homosexuel, peut-être que je n'aurais pas eu le même rapport, parce qu'il y a aussi ce rapport au désir, à la sexualité. Et sans doute qu'Hervé Guibert m'a appris à ne plus avoir honte. Mmh. Donc en cela, son homosexualité, mon homosexualité ont un rapport.
Je me tourne vers vous, l'œil du spécialiste, si je puis dire, de littérature. Tout le monde est spécialiste ici, mais vous êtes en plus universitaire. Ça veut dire quelque chose, une littérature homosexuelle? Est-ce qu'on peut classer Hervé Guibert comme cela?
Je crois, oui. Enfin, pour autant, le lecteur n'est pas obligé d'être homosexuel lui-même pour précisément être attiré et même fasciné par cela. Vous savez qu'au Japon, il y a des mangas spécialisés pour les jeunes filles qui, précisément, font des récits de rapports entre garçons. Et c'est pour des jeunes adolescentes qui sont précisément fascinées par ça. Ce qui se passe simplement, c'est que la littérature homosexuelle a le mérite et le privilège de montrer, en quelque sorte, le désir sans, je dirais, les faussetés bourgeoises ou petites bourgeoises qui appartiennent au monde, finalement, hétérosexuel, qui cache toujours la réalité organique, physique, du désir. Et donc, en ce sens, oui, je crois qu'il y a quelque chose de spécifique.
Mais est-ce que c'est pas homosexuelle spécifique dans les années, justement, 90, où l'homosexualité n'était pas dans la société ce qu'elle est aujourd'hui et qui produisait un type de littérature particulière?
Non, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très, très singulier dans l'écriture homosexuelle qui, précisément, provoque chez d'autres lecteurs, que ce soit des femmes, des jeunes filles, des hommes hétérosexuels. Là, récemment, je relisais le Saint-Genest de Sartre, qui parle de son excitation quasiment face aux travestis qui est divine. Sartre, qui est pourtant absolument pas du tout, qui même parfois a des propos homophobes dans certains de ses textes, en tout cas qui n'est pas spécialement marqué par une sensibilité homosexuelle, décrivant sa lecture de Genest et montrant en quoi la figure de divine et des héros de Genest touchent en lui quelque chose, une altérité, une autre sexualité, en lui et qui, évidemment, le fascine. Donc, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très singulier dans la littérature homosexuelle, au sens où elle déclenche des éléments, des effets absolument comme inattendus ou imprévisibles chez tous les lecteurs.
Alors justement, Genet, est-ce qu'on peut le rapprocher d'Hervé Guibert d'une manière ou d'une autre, hein, la littérature de Genet, est-ce qu'elle est liée à celle de Guibert?
Alors oui, je crois qu'il y a, enfin, il y a en tout cas un rapport à la douleur, à la violence, au mal, à la, des formes de déchéance. J'emploie ce mot dans un sens absolument pas du tout moral, bien sûr, hein, mais une forme de goût, de plaisir pour la perte. Et je crois qu'il y a en effet entre eux quelque chose de très lié. Genet a comment? Enfin, alors, moi, il y a l'épisode Sida qui, à mon avis, est très important, en tout cas dans ma lecture de Guibert. L'épisode de Sida que Genet n'a pas du tout connu. Enfin, Sida, il l'a connu, mais en tout cas, il ne l'a pas vécu, en tout cas. Mais c'est une forme de, je sais pas, de successeur, ou en tout cas de lien, de chaîne entre Genet et Guibert, qui est très forte à mon avis.
Alors on va poursuivre cette conversation en l'ouvrant à nos autres invités. Avant d'évoquer la manière dont Bénédicte Heim a fait d'Hervé Guibert aussi quelqu'un d'important dans sa vie et dans sa littérature, je voudrais qu'on écoute un témoignage du photographe Bernard Faucon parlant de celui qui a été son ami. Enfin, on va écouter de quelle manière.
Oui, je pense qu'Hervé, oui, Hervé ressemblait à ses écrits, je crois. Oui. Mais pour ce qui est de notre relation, de notre communication, je suis tombé il n'y a pas très longtemps, enfin quelqu'un me l'a signalé, je l'ai peut-être trouvé moi-même, sur un passage du Mausolée des Amants, donc de ce texte, enfin de ce journal, quoi, qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Et si ça vous amuse, je peux vous le lire parce que c'est pas, j'étais un peu estomaqué. En même temps, je vais donner entièrement raison. Donc voilà. Le poète me rapporte dans sa lettre, agressivité minutieuse, que Bernard dit qu'on s'ennuie chez moi. Je ne me souviens pas de l'avoir dit. Bon. Le chez est-il un lapsus du poète? Je n'ai pas de chez moi, pas de maison, pas d'entourage visible. Je ne fais pas communauté. Veut-il dire que mon moi intérieur est mortel? Je lui accorde volontiers. N'était-ce pas plus simplement qu'il s'ennuie avec moi? J'écris tout ça, bien sûr, pour résorber une petite pointe de vexation. Je m'ennuie souvent avec les autres. Et il se trouve que Bernard, c'est drôle, est une des personnes avec qui je m'ennuie le plus. Ensemble, nous dégageons de l'ennui. Comme un corps simple dégage quelque chose, une vapeur, une étincelle au contact d'un autre. C'est un curieux effet de reflet, de lassitude, une symétrie ou une transparence de l'âge, un étouffement par égalité. Si différents apparemment, nous avons, Bernard et moi, quelque chose de commun, c'est clair, et c'est peut-être cette propension à l'ennui. Moi, je porte le vêtement de l'ennui à l'endroit, tandis que Bernard le porte à l'envers, pour cacher sa vraie couleur. Il le retourne, c'est son déguisement de jeunesse, mais nous souffrons des mêmes crampes, des mêmes courbatures.
Bénédicte Heim, je rappelle que vous êtes romancière et que vous avez donc vous aussi raconté dans la revue littéraire votre découverte d'Hervé et Guibert. On va en parler. Est-ce que vous avez envie de réagir sur ce qui a été dit d'abord dans l'émission et puis sur le témoignage de Bernard Faucon sur Guibert? Vous n'êtes pas obligé, hein, oui. C'est seulement si vous voulez.
Alors sur le fait que... Hervé Guibert serait l'écrivain des homosexuels, par exemple. Mais moi, quand j'ai découvert Hervé Guibert, j'ai découvert tardivement, j'avais plus de 30 ans. Ça a été un choc sismique aussi, radical.
Vous n'avez jamais lu quelque chose comme ça?
Jamais. Alors, vraiment jamais. Alors, j'ai eu des chocs analogues avec Marguerite Duras, par exemple, ou Genet, qu'on vient d'évoquer. Qui m'a bouleversée aussi, et d'autres. Mais là, ça a été... pendant tout un été, j'ai fait que lire Hervé Guibert. J'ai commencé par Le Paradis. Et de cet été-là...
Vous avez commencé par la fin, alors. Vous avez commencé par la littérature de la maladie,
J'avais aucune connaissance d'Hervé Guibert, enfin, de son œuvre. Donc, c'était complètement dans le désordre. Et j'ai eu le sentiment d'une altérité radicale, mais aussi d'une identité totale. Les deux, en fait, conjoints. Et ça a été un bouleversement intime complet, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait écrire comme ça, comme beaucoup l'ont dit déjà. Hein. Et
on pouvait se permettre d'écrire comme ça.
Alors avec ce mélange, alors j'avais découvert par exemple Marguerite Duras, une audace, une liberté inédite, mais avec Hervé Guibert, je découvrais autre chose. Outre cette audace et cette liberté qui s'accordent, il y avait un alliage des contraires que j'ai trouvé chez personne d'autre, je crois pas même chez Genet, où c'est plus fluide.
Des contraires qui seraient... quels contraires ?
Eh ben, par exemple, la cruauté, la douceur, vous parliez de déchéance, une espèce de recherche de la perdition, de la souillure, associée avec une recherche d'une extrême pureté. L'écriture d'Hervé Guibert est extrêmement pure et elle est très... elle est à la pointe.
Elle est clinique aussi.
Elle est complètement clinique et c'est au scalpel, vraiment. Et en même temps, il va d'une certaine manière se rouler dans la fange, et ces alliages-là sont complètement explosifs, quoi. Quand on lit ça, c'est comme si ça vous sautait à la figure. Et...
C'est la pudeur et l'impudeur aussi.
C'est la pudeur et l'impudeur, exactement. C'est oser tout dire, ouais, de l'organique, et sans pour autant tomber dans quelque chose de répugnant. Au contraire. Alors là, il y a quelque chose de Genet, qu'on retrouve chez Genet, c'est cette façon d'élever la souillure au rang de quelque chose de sacré, bien que ce soit très différent chez Hervé Guibert, mais trouver une beauté un peu baudelairienne aussi dans la souillure.
Ouais. Et vous, ça vous a complètement changé, c'est pas trop fort de le dire, en tant que personne et en tant qu'écrivaine aussi?
Je crois qu'on peut le dire, oui. Enfin, en tout cas, ça a laissé en moi une empreinte indélébile. Et de cet été-là où j'ai lu Hervé Guibert, je n'ai quasiment aucun souvenir, des événements quotidiens que j'ai vécu. Je vivais tout dans la perspective de pouvoir rouvrir dès que j'aurais fini mes activités ordinaires le prochain livre d'Hervé Guibert, ou le prochain passage, me plonger dedans, m'immerger. J'étais complètement en transe. J'étais possédée, réellement. Et je voulais plus que ça, quoi. Être avec Hervé Guibert, être plongée dans son écriture.
Et alors, comment ça se traduit dans vos livres à vous, Bénédicte Heim, cette fascination, cette envie d'être avec Hervé Guibert?
Ça se traduit pas directement, parce que j'ai une écriture vraiment très très différente de la sienne. J'ai une écriture beaucoup plus lyrique, beaucoup moins clinique, justement. Je crois que Hervé Guibert m'a poussé dans mes retranchements et m'a prouvé que, enfin, m'a autorisé à écrire d'une façon encore plus libre, encore plus elliptique, aller encore plus au bout de ma démarche.
Et aussi à révéler vos démons, à les accepter.
Exactement, parce que Hervé Guibert est vraiment sans complaisance, que ce soit envers les autres et envers lui-même. Et en le lisant, alors j'ai découvert quelqu'un de tellement autre et de tellement proche, là, comme je le disais, mais il me renvoyait impitoyablement à moi-même aussi. Et à tout ce qui, en moi, peut être justement de l'ordre de... du sale, de la souillure, de la déchéance, de la cruauté. Il est extrêmement cruel, Hervé. De la cruauté, alors que je me plaisais peut-être avant à cultiver une image de moi beaucoup plus sainte. Mmh.
Saint-Genis. Il est toujours l'ange et son contraire.
Oui, complètement. Il révèle ça chez l'autre. Je crois que quand on le lit vraiment, on est confronté au plus noir de soi. Mmh. Et on est obligé de faire avec, y compris dans l'écriture.
Et donc ces récits que vous avez publiés s'appellent « Nu » et « Le corps blanc des amoureuses »,« Je suis l'autre moitié de ton péché ». Par exemple, c'est aux éditions du Contrebandier. On va continuer de parler d'Hervé Guibert à présent, cette fois sous l'angle de sa relation particulière avec Roland Barthes, de nouveau avec vous. Éric Marty, voici la chronique du jeudi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Vous avez publié, Éric Marty, un album Roland Barthes au seuil. C'était lors du centenaire de sa naissance en 2015. Et donc, à la fin de cet album, vous avez reproduit la correspondance que celui-ci a entretenue avec Hervé Guibert. C'était une relation qu'on peut qualifier comment ? De maître à élève ?
Non, ben, je dirais non. Enfin, et en tout cas, vous avez dit que c'était à la fin de l'album. Et en effet, quand j'ai conçu l'album Roland Barthes, mon obsession, c'était que ça se termine par...
Vous le saviez dès le départ.
Oui. Mmh. Il me semblait que c'était très important. D'abord, cette relation est très archétypale dans la relation de l'écrivain, finalement. C'est Rimbaud et Verlaine, c'est, enfin, toutes sortes de... On a parlé de Genet, mais Rimbaud me semble être une figure peut-être plus encore en filigrane. Chez Hervé Guibert.
Parce que c'est une œuvre très courte, et qui est une œuvre de jeunesse.
Voilà, puis il y a la beauté que n'a pas Genet, il y a une duplicité propre à Rimbaud qui n'est pas chez Genet. Genet, me semble-t-il, moins duplice que ne l'a été Guibert et Rimbaud.
C'est-à-dire quoi, duplice en l'occurrence ?
Eh ben, ce qui était dit sur le mélange justement de la douceur, de la cruauté, de cette
ce Genet mélange. Genet est plus brut d'une certaine façon.
Plus brut, oui. Peut-être parce qu'il vient d'une, il a une origine différente aussi, parce qu'il y a, il a un horizon culturel différent, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, il fallait absolument que ça se termine par cette correspondance. Et en plus, parce que c'était vraiment pour moi la fin de la littérature qui s'exprimait peut-être dans cette relation ratée, entre guillemets, entre Barthes et Guibert, c'est-à-dire la position du jeune homme qui s'adresse au maître, et ça se passe mal.
Alors pourquoi ça se passe mal ?
Ça se passe mal parce qu'au fond, parce que leur fantasme littéraire, leur rapport à la littérature n'est pas forcément le même, même si apparemment Hervé Guibert était très admiratif de Barthes et avait avec lui une sorte de rapport à un maître, effectivement. Néanmoins, la réponse de Barthes est très, je pense, déçoit peut-être Hervé Guibert. Il ne la comprend pas forcément. Cette réponse, c'est au fond une réponse très métalittéraire, c'est un texte contre une nuit d'amour.
C'est-à-dire, expliquez-nous ça.
Voilà, en fait, Hervé Guibert demande à Barthes une préface.
Préface,
voilà. C'est donc la demande du jeune homme au grand écrivain d'être préfacé. Mais le grand écrivain répond à cela sur un mode, je dirais, au 15e degré, dans son esprit en tout cas, qui est le mode Scheherazade. Un récit contre une amour, le mode de Sarrazine de Balzac qu'il a analysé, là aussi, un récit contre une amour. Barthes le fait sur un mode, je dirais, encore une fois, très littéraire, très métalittéraire, comme une sorte de jeu. Et Hervé Guibert va exprimer à cela un refus. Néanmoins, finalement, cette demande de texte va aboutir néanmoins, puisque Barthes va écrire alors un texte qui s'appelle Fragment pour H, qui est une sorte de supplément à Fragment d'un discours amoureux, dans lequel il va faire le récit de cette soirée où Hervé Guibert se refuse. Et c'est un très beau texte que Hervé Guibert a aussi tout à fait admiré et qu'il a publié lui-même après la mort de Barthes dans l'autre journal en 1986 et parlant d'un texte qu'il avait complètement bouleversé. Et dans ce texte, Barthes parle à propos d'Hervé Guibert. Il a une phrase que je trouve très, très belle qui dit qu'il a vu dans son regard un refus de tout temps. Mmh. Et cette expression me semble très forte et en plus très juste, je pense, par rapport à Hervé Guibert, c'est-à-dire, alors là, c'est le côté Genet, un refus des liens de l'amour, ou en tout cas, un refus du type de lien amoureux que Barthes lui proposait. Et cette correspondance, elle est très émouvante à cause de ça, parce que non seulement elle est elle est manifestée par une hypersensibilité de chacun des deux côtés, en quelque sorte, un refus et une demande, en tout cas, Et ça n'enlève pas d'ailleurs à cette relation qu'elle se poursuit, en fait. Elle se continue malgré ce refus. Et jusqu'au moment où, la dernière lettre, finalement, qui est la lettre d'Hervé Guibert à Barthes lorsqu'il reçoit la Chambre claire. Et texte où Guibert promet à Barthes un texte sur la Chambre claire, mais Barthes va mourir. Il n'aura pas l'occasion de recevoir ce texte. En tout cas, il y aura donc la mort qui va apparaître. Mais on a donc dans cette relation quelque chose qui dépasse un tout petit peu les deux personnes, qui en fait une forme d'allégorie de ce jeu, finalement, du désir et de la littérature, de l'écriture et du don, de l'écriture et de l'échange érotique. Il y a quelque chose de très, vraiment pour moi, de très, très beau, très allégorique. Et qui en effet, n'a pu avoir lieu que parce que c'était Guibert et Barthes.
Donc vous n'y voyez pas la relation utilitariste qu'on sent quand même aussi un petit peu quand Hervé Guibert demande plusieurs fois cette préface. Quand est-ce qu'elle va arriver cette préface? Quand il lui envoie des textes qui sont des textes à caractère sexuel, dont on se doute que s'il les envoie à Barthes, c'est parce que il attend que ça provoque chez lui aussi du désir pour le jeune homme qu'il est. Donc ça, vous ne le voyez pas.
Si, bien sûr, il y a cette dimension-là, comme chez Rimbaud, lorsqu'il écrit à Théodore de Banville et qu'il envoie ses poèmes. Mais il n'y a pas d'incompatibilité, à mon avis, entre cette dimension utilitaire, qui, après tout, correspond aussi au réel de l'écriture, et puis la rencontre. Et la rencontre, et puis il y a chez Barthes une sorte aussi de très grande sensibilité. Il aime l'impatience de Guibert. Il parle de l'impatience parce que Barthes refuse plusieurs fois, à plusieurs reprises, dit qu'il ne peut pas, que sa mère est malade, il est fatigué, etc. Et donc il y a plusieurs lettres de refus. Mais dans ces lettres de refus, il y a chaque fois aussi cette part de gentillesse, de tendresse. Barthes parle des tendres amis, de tendresse de Barthes, qui dit justement, je ne peux pas, mais j'aime ton impatience. Voilà. Et c'est j'aime aussi l'impatience de Guibert.
Merci beaucoup, Éric Marty. Vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission, toujours consacrée à Hervé Guibert.
Oh, Lordy, my trouble so hard. Oh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Et on part donc dans cette compagnie des auteurs avec la galerie de portraits qu'a réalisé la critique de photographie et journaliste Brigitte Ollier. Portrait fait par quelques proches d'Hervé Guibert et qu'elle a donc publié sous le titre Hervé aux éditions Filigrane. Elle a par exemple demandé un témoignage à l'ancienne journaliste du Monde, Yvonne Babi, par ailleurs interrogée en 2011 par Kathleen Evin sur France Inter. Voici un extrait de cet entretien.
Il avait une très grande sensibilité à tout ce qui se passait autour de lui. C'est-à-dire, tout prenait un relief particulier. Et je pense qu'il était un poète, c'est-à-dire qu'il avait une possibilité de transformer la réalité. Il avait des fulgurances, il avait beaucoup de lucidité, il était très intelligent. Donc il pouvait aussi bien faire le récit calme et, comme vous le disiez, à plat de ce qui se passait autour de lui et avoir la même, la même forme de réalisme quand il parlait de la sexualité, de son corps, de la déchéance. Mais en même temps, il était un poète. Donc, je trouve, donc il y a toujours une recherche de la beauté. Hein. La beauté est vraiment une obsession de sa vie. Peur de la mesquinerie, désir de la beauté et recherche d'une écriture très simple, peut-être, mais extrêmement, au fond, théorique, je trouve. Et il pensait ce qu'il écrivait. Et ça, c'est assez rare. C'est-à-dire, si vous prenez tout ce qu'il a écrit, vous apercevez qu'au fond, Hervé, de sa façon, est un moraliste. Et évidemment, ce n'est pas ce à quoi on pense immédiatement. Mais moi, je crois qu'il est un écrivain qui est qui semble facile d'accès et qui ne l'est pas tellement.
Alors Brigitte Ollier, vous avez travaillé à Libération de 1981 à 2015. Vous avez créé la rubrique photographie et c'est Yvonne Babi qu'on entendait à l'instant qui a proposé à Hervé Guibert de créer la chronique photographique, la rubrique photographique au journal Le Monde. Donc ça nous semblait une excellente entrée en matière. C'est d'ailleurs comme ça aussi que vous avez commencé cette série de portraits dans votre livre.
J'ai commencé avec Yvonne Babi, d'une part parce que c'était quelqu'un déjà que j'aimais beaucoup. J'avais cette tendresse, on peut dire, pour elle, sans la connaître. Et donc, je pensais que c'était bien de commencer avec elle. Et c'était quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée, parce que les débuts pour recueillir des témoignages ont été difficiles. Beaucoup de personnes ont refusé. J'ai eu peu de réponses au début, donc c'était quelqu'un qui était toujours présente, comme Claire Devarieux.
Mais pourquoi est-ce aussi que au journal. Il y a autour d'Hervé Guibert cette envie de le garder pour soi et de ne pas finalement, je parle des proches, des très proches de Guibert, de ne pas témoigner.
Ça, je sais pas. Je veux dire, dans les gens qui ont refusé, pour certains, c'était un trop mauvais souvenir. Donc c'est difficile de savoir par rapport à ça, mais quand même ceux qui étaient, il y avait les deux, il y avait ceux qui voulaient pas, et moi j'étais, donc du coup ça me semblait un peu un obstacle, et je me sentais tout à coup assez illégitime, et donc j'ai essayé après de faire différemment et de me rapprocher de lui avec des gens qu'il avait peut-être moins connu, voire pas du tout rencontré, et qui avait travaillé sur lui. C'est pour ça que le livre, il se déplie un peu avec certaines personnes qui l'ont, comme Yvonne, qui l'ont très très bien connu. Elle le résume d'une phrase que je trouve, enfin, vraiment, vraiment juste. Elle dit, c'était un ami formidable. Voilà, je trouve que ça lui va vraiment bien. Et puis après, de faire de poursuivre comme ça avec ceux qui l'avaient approché, ceux qui l'avaient étudié. C'est comme ça que j'ai rencontré Arnaud Genon, et donc d'avoir une sorte de puzzle comme ça de ce jeune homme qui était fait de confidences sur comment il était. Yvonne, elle dit qu'il aimait les chaussettes rouges, et puis elle dit d'autres choses sur son écriture, sur comment il était dans le service culture du monde.
Et alors, comment était-il dans le service culture du monde?
Elle disait, je pensais, dit-elle, qu'il serait comme un révélateur de notre service. Sa présence changeait quelque chose dans l'atmosphère. Et c'est vrai que quand on le regarde, parce que moi je connais plus, contrairement à vous, je connais peut-être plus ses photographies que ses textes. C'est vrai qu'il y a une sorte d'attirance pour lui, ce qu'il était profondément, et puis aussi comment il a photographié. Et quand je dis une attirance, c'était pas que sa beauté, c'était quelqu'un qui, je sais pas, il était, je trouvais que c'était dans ce que j'ai pu comprendre de sa photographie, y compris de ses autoportraits. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que je trouve que c'est quelqu'un qui inscrivait toujours le temps dans ses photographies. Et ça, c'est assez rare, c'est-à-dire qu'il avait, cette, je sais pas, c'était quelqu'un qui faisait face aux choses, je trouve. Il n'était pas aussi bien dans l'écriture que dans ses textes, que dans la photographie. C'était pas quelqu'un qui esquivait. C'est en ce sens-là que c'était quelqu'un qui était, pour moi, où c'est tellement difficile de trouver les mots chaque fois. Et je trouvais que lui, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de photographier, il allait toujours jusqu'au bout. Il était vraiment comme ce ruisseau qui part de la montagne et qui arrive à la mer, et il y arrivait, quoi. Il était pas, il s'arrêtait pas en cours de route, et ça, c'était formidable de savoir ça, de le lire comme ça.
Alors, c'est pas que la beauté, évidemment, Hervé Guibert, c'est pas que la beauté plastique de ce jeune homme éternel, mais c'est quand même aussi un peu ça, parce que on le retrouve beaucoup, ce paramètre, dans les témoignages que vous avez recueillis. C'est l'ange Hervé Guibert. D'ailleurs, il y a quelques photos aussi dans votre livre où on le voit angélique, comme par exemple la photo de Hans-Georg Berger. Donc tout le monde le trouvait beau quand même, et ça a joué énormément dans la perception qu'on avait de lui.
Il est beau, il était beau, mais comme mais je pense pas que ça c'est quelque chose qui est là, mais en même temps ça gêne pas. Je veux dire, c'est pas il a pas une beauté de top modèle ou
non, il a une beauté à la Pasolini, oui. Ou à la Piero della Francesca. C'est Yvonne Babi qui écrit ça, enfin qui
mais
le
il y avait
Frédéric
Edelman aussi écrit qu'il avait la charpente d'un maître nageur, donc je crois que
donc qui était également, enfin qui est journaliste au
oui,
Monde
qui est journaliste
et qui a été
au Monde, et Frédéric il dit ça, donc je pense que dans la c'est plus, je trouve, le côté comme ça de cette concentration qu'il pouvait avoir sur les photographies, celle qu'il a faite. Il y a ce temps comme ça toujours accordé à, on sent qu'il est vraiment présent et qu'il cherche toujours la vie, je trouve, dans ses photographies, alors que je trouve son écriture peut-être plus mélancolique, mais
Il y a un côté mystique aussi qui est soulevé, qui est noté par un certain nombre de personnages, enfin de personnes que vous êtes allé interroger.
Mystique, je ne me souviens pas de témoignages.
Ben c'est
de
Robert Pujade, par exemple, qui dit qu'il a été un prophète en photographie.
Oui, mais Robert, il aime comme ça. Il était très touché par Hervé Guibert et par ses photographies, puisque lui, il maîtrise l'esthétique au niveau de la photographie. Et peut-être, je sais pas, mystique, c'est plus, moi je dirais plutôt que c'était plutôt quelqu'un, enfin, en tout cas dans ce que moi j'ai pu ressentir, qui était comme un qui rendait quelque chose de la superstition qu'on peut avoir avec la photographie. Voilà, moi j'étais plus dans ce, quand je regardais ces photographies, il y avait toujours des je voyais des choses probablement qui n'y étaient pas, des choses qu'il avait peut-être mises ou préparées, ou des choses qui étaient là sans qu'il les ait préparées. Il y avait toujours ce truc, il y avait toujours cette mais comme quand qu'il écrit ce recueil de l'image fantôme où il parle de la photo de sa mère qu'il a pas fait puisque la pellicule s'est pas enclenchée, et je crois que c'est comme ça, que cette photo elle existe quand même, même s'il l'a jamais faite.
Alors, mystique ou spirituel, c'est le mot de Pascale Brugnaud pour qualifier la pudeur ou l'impudeur. Hein, Pascale Brugnaud, c'était une productrice de télévision sur TF1, et elle avait donc produit ce film-là. Vous la sentez, la spiritualité, par exemple, dans ce film?
Je sais pas, je crois que c'est un film qui est quand même avec beaucoup de douleur. Donc je sais pas, ça, je peux pas répondre à.
On peut raconter l'histoire du film alors un petit peu.
Ben le film, elle lui propose de faire ce film et il va finalement accepter de le faire et le faire en se filmant avec. Comme ça au quotidien, toujours, tout le temps. Et c'est vrai que c'est Maureen qui va le monter, qui va pouvoir construire par rapport à tout ce qui a été sa vie à ce moment-là. Et c'est quelque chose de, c'est une sorte de, mais toujours ce désir, on sent, d'aller jusqu'au bout et de pas s'épargner et en même temps. Ça a été, pour tous les gens qui l'ont vu en entier ou par bout, ça a été quand même aussi c'était quand même quelqu'un qui était dans son temps aussi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a
dans son époque. Vous
oui,
voulez dire
oui, c'est quelqu'un qui a permis de mettre des mots, parce qu'on était tous quand même concernés par ses amis qu'on avait qui mouraient du SIDA et sans trop qu'on comprenne pourquoi. Et je pense que lui, il a mis des images, il a mis des mots, et ça, c'est très important.
J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné, je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine, que mes yeux sont bleus marines, tu les avais repérés, sans qu'il y ait un regard, et t'avais rappliqué, maintenant je paye les faire tard. De toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond.
La comp- compagnie des auteurs. Nous parlons toujours d'Hervé Guibert avec ce clin d'œil à Isabelle Adjani. Brigitte Ollier, évidemment, vous le comprenez, ce clin d'œil, il vient de son rapport à Isabelle Adjani et de la manière dont, dans À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, il a appelé Isabelle Adjani Marine, oui. En rapport à cette chanson.
Et j'ai pas réussi à... J'ai vraiment tenté très longtemps d'avoir son témoignage et j'ai pas réussi. Et je l'aurais d'autant plus souhaité que il a fait ses portraits d'elle, de très très beaux portraits. Je crois que c'est au Jardin des Plantes. Et j'avais donc doublement envie, c'était pas le côté de Adjani, actrice célèbre, ou c'était plutôt dans la fusion comme ça de leurs deux... Vous parliez de la beauté, de leurs deux beautés, qui ça m'intéressait. Puis en plus c'était ça aurait été bien, mais bon, elle a pas, j'ai pas réussi.
Ah, c'est pas facile hein, d'approcher Hervé Guibert, Mathieu Simonet. Qu'est-ce que l'évocation par ces personnes qui sont finalement pas du premier cercle, mais qui sont déjà d'un deuxième cercle. Finalement, on aurait pu vous ajouter aussi dans ce deuxième cercle là. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Moi, il y a deux choses. D'abord, j'ai rencontré quelques personnes qui ont connu Hervé Guibert. À chaque fois, ça m'a bouleversé. Donc, ça a été le cas de Christine Guibert, l'épouse d'Hervé Guibert, ou d'Agathe Gaillard, sa galeriste. Et puis, l'autre élément, là, en vous écoutant tous, je crois qu'Hervé Guibert, c'est le seul auteur pour lequel j'ai l'impression que toutes les personnes qui lisent Hervé Guibert, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, quelle que soit son origine, ça crée une vraie communauté. C'est-à-dire que toutes les personnes qui parlent de Guibert, je suis toujours d'accord avec tout ce que tout le monde dit sur Guibert. Mmh. Quelque chose qui me touche. Et là, en vous écoutant tout, je me disais, j'ai envie de dire oui à tout. Et je me sens très, très proche de tout ce qui est dit. Et je crois que c'est le seul auteur pour lequel je ressens cela.
Ouais. Alors, tout à l'heure, on n'a pas évoqué avec vous un certain nombre de noms d'écrivains qui étaient contemporains d'Hervé Guibert. Et qu'on aurait pu qualifier aussi d'écrivain homosexuel. Je pense par exemple à Okungame. Qu'est-ce que vous diriez de cette espèce de réseau-là et de la résonance qu'il peut y avoir entre Guibert et Okungame? On pourrait parler, je sais pas, de Christian Judicelli, même si c'est un petit peu différent. Enfin, il y a quand même un creuset un petit peu dans ces années-là autour de ces questions, de ces thèmes et de ces lieux aussi.
Moi, dans les auteurs homosexuels qui m'ont marqué, c'était Yves Navarre qui m'a énormément marqué, parce que j'ai découvert Yves Navarre le jour où il est mort. C'est-à-dire que quand il est mort, on en a parlé, et le jour à la radio, et j'ai lu dans la nuit le Jardin d'acclimatation, et j'ai été bouleversé par le fait que je me sentais effectivement totalement... Enfin, je sentais quelque chose de très très proche vis-à-vis de Navarre, et j'avais à partir de là lu tous les livres d'Yves Navarre. Et Yves Navarre, à un moment donné...
Ça marche vraiment en réseau, alors.
Ouais. Et Yves Navarre parle à un moment donné de la question de la littérature homosexuelle, de savoir est-ce qu'on peut... Et en gros, il dit, à l'époque, aujourd'hui, ça ne serait plus vrai, il dit à l'époque que pour un écrivain, c'est beaucoup plus facile d'écrire un livre quand on raconte une histoire hétérosexuelle qu'homosexuelle. Et ça m'avait beaucoup interrogé, marqué. Enfin, voilà,
Quelle raison? Comment est-ce qu'on peut justifier ça?
Parce qu'il disait, à tort ou à raison, qu'à la fin des années 80, les éditeurs étaient plus frileux pour se disaient que c'était moins grand public. Et je sais que voilà, c'est quelque chose qui m'avait marqué.
Tony Duvert aussi, c'est un nom qu'on pourrait citer.
Oui, il y a eu Tony Duvert également. Sachant que Tony Duvert, je connais moins qu'Hervé Guibert, j'ai l'impression que, enfin, on retrouve aussi la volonté d'approcher des choses qui pourraient paraître glauques et qui en fait sont sublimées par l'écriture de Tony Duvert. Après, moi, j'ai l'impression que mon rapport à la lecture d'Hervé Guibert est plus fluide que mon rapport à la lecture de Tony Duvert. Et je voulais juste qu'une expérience que j'ai faite, que j'aime bien, c'est de prendre n'importe quel livre d'Hervé Guibert à n'importe quelle page, ce que je vais faire là, et juste de lire deux, trois lignes. Parce que je trouve ça intéressant que les auditeurs se rendent compte à quel point n'importe quelle phrase d'Hervé Guibert est belle. J'espère ne pas
prendre. Prenez-le vraiment au hasard. Alors,
je tourne la page, j'ai vraiment.
Voilà, au hasard.
Où je prends ce livre que je n'ai pas apporté, L'image fantôme. Donc vraiment, il ne peut pas y avoir. J'aime beaucoup tous ces autoportraits. Voilà un type de collection évidente. Pourtant, aucun ne me semble atteindre en force les autoportraits peints de Rembrandt. Est-ce donc que la photo est moins forte que la peinture, à la fois plus exacte et plus superficielle? La photo a moins de superposition, n'a jamais qu'une seule couche.
C'est une bonne démonstration.
Moi, je peux proposer à n'importe quel auditeur de prendre n'importe quel livre de Guibert et de l'ouvrir à n'importe quelle page. L'écriture est toujours magnifique.
Éric Marty, peut-être le mot de la fin sur ces questions.
Pour moi, le vrai contemporain d'Éric Guibert, c'est Robert Mapplethorpe. Le photographe américain qui partage avec Guibert la photographie, la beauté, le sida, l'homosexualité et le même rapport précisément, je dirais, à la mort et au désir, au sublime et l'abject. Et il y a pour moi vraiment, il y a quelque chose comme une forme de gémilité entre Robert Mapplethorpe et Guibert. Et c'est plus un photographe qu'un écrivain contemporain qui est son double ou son frère.
Alors que lui est quand même, on est bien d'accord, d'abord un écrivain, non ?
Oui, peut-être, mais un écrivain photographique aussi, un écrivain ou la photographe, même dans son écriture, la photographie est omniprésente comme fiction photographique où quelque chose se dévoile, se révèle du réel sous la forme du regard et sous la forme d'un dévoilement immédiat ou au contraire un dévoilement lent, une sorte de développement, d'apparition de l'image et l'image fantôme. Où la question de la mer, justement, comme dans la chambre claire, est présent.
Merci beaucoup à tous les quatre. Il y aurait beaucoup de références et d'ouvrages à citer pour chacun de vous. Je vais me contenter de rappeler le numéro 51 de la revue littéraire de Léo Cher, revue dans laquelle on trouvera donc vos articles, Bénédicte Heim et Mathieu Simonet. Brigitte Ollier, votre livre Hervé a été publié aux éditions Filigrane. C'était La Compagnie des Auteurs, une émission proposée aujourd'hui par Didier Pinot, Anne-Vanessa Presvaux, Laurence Genepin, Laurence Millet, Stéphanie Vélin et Florent Bujon. Et tout de suite, c'est la poésie avec, comme chaque jour, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Léon Gontran Damas. Pas l'ombre d'un doute, c'est dans Pigment Névralgie. Dans Pigment ? Non, dans la partie Névralgie. Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'une fois de plus la question aura été bien mal posée de savoir quand. Et parce qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'une fois de plus la question aura été bien mal posée de savoir quand, il était à prévoir autant qu'à redouter qu'elle répondrait quoi à la question bien mal posée de savoir quand. Alors, chien battu, penaud et quoi ? Je me suis bien gardé de demander. Névralgie. Oh ! Cette névralgie dépasse le simple stade de la nostalgie, de la mélancolie. Cette névralgie est liberté, cette poésie un chant d'amour. Et à l'écoute d'un monde qui a bien d'autres choses en tête que de s'attendrir sur un fruit mûr piqué des vers. Dit, citation Damas, le poète, alors professeur de littérature aux États-Unis, persistait à œuvrer pour une meilleure compréhension entre les peuples. Toujours ces mots, toujours les mêmes, dont il ne semble pas qu'elle ait encore jamais saisi sur l'heure toute l'inutile cruauté. J'ai cru qu'il allait dire l'inutile beauté. Donc c'est ces mots à elle peut-être, toujours les mêmes, dont il ne semble pas qu'elle ait encore jamais saisi sur l'heure toute l'inutile cruauté. Allez, on envoie la basse et c'est parti, sans satisfait du sens ancien du dit, c'est un titre qui déjà lance le poème, sans satisfait du sens ancien du dit, sang du sang de ton sang de pur sang. Sans qui ne s'ignore, sans qui se relève, sans qui se dresse, sans qui se redresse, sans qui se rebelle, sans qui se rebiffe, sans qui se révolte, sans qui se cabre, sans qui rejambe dans sa fierté blessée. Eau, eau du ciel déversée sur le fleuve, où s'en vint échouer, à l'âge amérindien du monde, celle dont tu sais assouer, restituer l'image. Parce que tu es sang, parce que tu es eau, est-il à ce point vrai que l'amour puisse, à satiété, en souvenir de nos enfances, comme une et une, se répéter pour soi et soi seul, la romance du sang plus riche que l'eau, du sang plus beau que l'eau, du sang plus épais que l'eau, parce que tu es sang, sang du sang de ton sang, bon sang de pur sang, parce que je suis eau, eau du ciel à torrents déversés sur le fleuve, d'où te vient ce long cri d'alarme. Je me sens soudain seul, emmuré vif dans l'angoisse de la mort silencieuse de mes nuits d'insomnie tiraillées de remords. Au pied de ton pardon, je dis ni sang ni eau, mais sang et eau mêlés, car tous deux confondus, nous ne sommes qu'une même somme, qu'un seul et même sang.
Jacques Bonafé, merci. Vous nous lisiez des textes de Léon Gontran, Damas.